français.
Bonjour à toutes et à tous, Le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 22 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire du parti au pouvoir en annonçant les résultats définitifs des élections législatives de décembre. Au Gabon, le Parlement de transition a adopté le nouveau code électoral. Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont la nomination a été confirmée lundi par le Sénat, a déclaré mardi que mettre fin à la guerre en Ukraine serait l'une des priorités. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, promet de riposter fermement et rapidement si les États-Unis imposent des droits de douane de 25% le 1er janvier. Et dans notre partie magazine, au Congo-Brazzaville, la société civile dénonce la léthargie du gouvernement qui continue d'autoriser les exportations du bois en grumes.
C'est vrai qu'il y a un problème de quota, mais quand nous voyons la quantité qui surquine parfois, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser?
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut MPS, en annonçant les résultats définitifs des élections législatives de décembre, les premières organisées dans le pays depuis 2011. Jacques Aristide.
Nous sommes sur le point de tourner définitivement la page de la transition pour nous orienter résolument vers le développement de notre chère patrie, a réagi dans la foulée le président Mahamat Idriss Déby en se félicitant de la bonne organisation des élections. Son parti du MPS a remporté une majorité écrasante de 124 sièges sur 188, a confirmé Jean-Bernard Padaré, le président du Conseil constitutionnel. Plus d'un tiers des députés, 64 sièges, soit 34%, sont des femmes, a-t-il ajouté en saluant une progression sans appel vers la parité. Le Conseil constitutionnel a invalidé 2312 procès-verbaux électoraux pour diverses irrégularités sans conséquences significatives sur les résultats dans leur ensemble. L'examen de 243 requêtes a conduit à opérer des annulations, des rectifications et des redressements qui paraissent fondés, toujours selon Jean-Bernard Padaré. Le premier parti d'opposition du Tchad, les Transformateurs, a qualifié d'échec retentissant le processus électoral et condamné des résultats préfabriqués. Aux partis politiques qu'ils aient participé ou choisi de boycotter le scrutin, je tends une main fraternelle. La diversité de nos opinions doit donc être une force et non une faiblesse, a encore dit le maréchal et président Déby.
Une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, trois pays sahéliens gouvernés par des militaires, va voir le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes, a annoncé mardi le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a indiqué le général Salifou Modi. Au Bénin, le procès de deux anciens alliés du président Patrice Talon, accusés de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert mardi matin à Cotonou avant d'être reporté à mercredi. Olivier Boko, homme d'affaires influent et ami intime du président béninois, et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, ont été arrêtés fin septembre pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Au Gabon, le Parlement de transition a adopté le nouveau code électoral. C'est une étape clé vers le retour à un régime civil promis par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a chassé du pouvoir Ali Bongo. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Entre autres dispositions, le nouveau code électoral octroie deux sièges de députés aux représentants des Gabonais de l'étranger et permet aux binationaux de se porter candidats à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, sans renoncer à leur autre nationalité. Il autorise aussi, selon les médias locaux, les magistrats et militaires à se présenter sous condition aux élections. Cette disposition est critiquée par certains opposants qui craignent qu'elle ne permette à ces professions de s'ingérer dans le processus politique via les armes ou des décisions judiciaires. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'une disposition taillée sur mesure pour permettre au général Brice Oligui Nguema, président de la transition, de se maintenir au pouvoir. Porté au pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo en août 2023, Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition. Jusqu'à présent, le calendrier de la transition a été suivi, voire anticipé, avec notamment l'adoption d'une nouvelle constitution, approuvée en septembre dernier par le Parlement de transition et votée par référendum en novembre.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a reconnu ce mardi une percée du M23, le groupe armé qui combat le gouvernement de Kinshasa dans la région. L'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu, les deux localités étant distantes de seulement quelques kilomètres, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dans un communiqué des FARDC.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont la nomination a été confirmée lundi par le Sénat, dans la foulée de l'investiture de Donald Trump, a déclaré mardi que mettre fin à la guerre en Ukraine serait l'une des priorités. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Marco Rubio, 53 ans, a été approuvé à l'unanimité par le Sénat. Il a aussitôt déclaré hier mardi à la chaîne de télévision NBC que la politique officielle des États-Unis sera que la guerre en Ukraine doit prendre fin, conformément à la promesse de Donald Trump de régler la question dès son arrivée à la Maison-Blanche. Les États-Unis cherchent à obtenir une fin durable à ce conflit qui garantit la sécurité de l'Ukraine et de nos partenaires dans la région qui stoppe les tueries, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. S'exprimant par la suite à la Maison-Blanche après avoir prêté serment, le nouveau secrétaire d'État a promis de mener une politique étrangère qui renforcerait les intérêts nationaux des États-Unis, conformément aux souhaits du président Donald Trump. Parmi les objectifs de la Maison-Blanche figure aussi la promotion de la paix, a-t-il dit, sans jamais abandonner nos valeurs.
Les États-Unis ont rétabli un programme exigeant que les demandeurs d'asile soient renvoyés au Mexique pendant le traitement de leurs requêtes, a affirmé mardi le ministère de la Sécurité intérieure du nouveau gouvernement Trump. Ce dispositif, connu à la fois sous le nom de Reste au Mexique et Protocole de protection des migrants, avait vu le jour durant le premier mandat du président Donald Trump. Il prévoit que les migrants arrivant par la frontière avec le Mexique et déposant une demande d'asile reçoivent une date de convocation et soient renvoyés vers le Mexique le temps que leur demande soit traitée. Par ailleurs, Donald Trump a affirmé mardi qu'il était favorable à l'idée d'un rachat de TikTok par Elon Musk si le patron de X, SpaceX et Tesla voulaient acheter le réseau social de l'entreprise chinoise ByteDance, interdit aux États-Unis depuis dimanche. Le président américain a signé lundi un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi afin d'essayer de trouver une solution. Il a également suggéré depuis la Maison-Blanche que l'entité qui rachèterait TikTok devrait donner la moitié aux États-Unis en échange d'une licence. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, promet de riposter fermement et rapidement si les États-Unis imposent des droits de douane de 25% le 1er février, comme l'a annoncé Donald Trump lundi après son investiture. Le point avec Eric Manilakiza.
Nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios et nous protégerons nos intérêts nationaux, a indiqué le Premier ministre Trudeau. C'est un moment crucial pour le Canada et les Canadiens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon des économistes, l'imposition de droits de douane déclencherait une profonde récession dans le pays, dont 75% des biens et services exportés partent vers les États-Unis. Justin Trudeau a toutefois précisé qu'il espérait toujours convaincre l'administration Trump de ne pas imposer de droits de douane. « Tout est sur la table et je soutiens le principe de droits de douane équivalent au dollar près », a-t-il déclaré, précisant que cela aura un coût pour les Canadiens. Des centaines de milliers d'emplois canadiens sont en jeu et selon un scénario pessimiste de la banque Scotia, une hausse américaine des droits de douane suivie d'une riposte du Canada sur les importations américaines pourrait faire chuter le PIB canadien de plus de 5%, augmenter considérablement le chômage et faire grimper l'inflation à plus de 4,1%. Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté sa démission début janvier, mais le remplaçant ne sera connu que le 9 mars prochain.
Des organisations de défense des droits humains ont exprimé leur inquiétude mardi face à la possible annulation, pause ou ralentissement du processus de remise en liberté de prisonniers politiques cubains après la réinscription de Cuba sur la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. Il y a une semaine, le président sortant américain Joe Biden a annoncé le retrait surprise de l'île de la liste noire américaine. Dans la foulée, la Havane a annoncé la remise en liberté graduelle de 553 personnes emprisonnées pour divers délits dans le cadre d'un accord avec le Vatican. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le spécialiste français de l'uranium Orano a engagé un deuxième arbitrage à l'encontre de l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale Somaï, action qualifiée mardi par le groupe français de dernier recours possible. Orano avait fini le semestre 2024 avec une perte de 133 millions d'euros plombée par cette difficulté au Niger. Le Bureau des statistiques du Kenya commencera à publier des données sur l'inflation de base, une mesure excluant les composantes volatiles telles que l'alimentation et le carburant. Cette initiative vise à aider les autorités monétaires à mieux anticiper l'impact de leurs décisions sur les taux d'intérêt et l'économie globale et devrait simplifier l'analyse économique en vue de renforcer l'efficacité des politiques monétaires. Aux États-Unis, les adeptes du télétravail ne veulent pas revenir en arrière. La question est même devenue politique. Elon Musk, à qui Donald Trump a confié une mission consultative au gouvernement, veut éliminer tout travail à distance pour les employés fédéraux. Le télétravail reste un enjeu crucial entre aspirations des employés et stratégie des entreprises.
Classe maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Suite ce soir des matchs de poule en Ligue des Champions.
Oui, malheur ou vaincu, lors du choc PSG-Manchester City, deux cadors en danger. Ce duel au sommet se joue au Parc des Princes. Habitués au dernier carré qu'ils ont atteint trois fois chacun ces cinq dernières saisons, les Parisiens comme les Citizens sont en grande difficulté en Europe cet hiver. Le PSG 7 points est 25e, juste en dessous de la 24e place, qui octroie le dernier billet pour les barrages d'accession en huitième de finale. City, 22e avec 8 points, n'est guère mieux loti. Les joueurs de Luis Enrique, intouchable leader du championnat de France, restent sur 8 victoires de rang. Ceux de Pep Guardiola remontent en Premier League, 4e avec 3 victoires en 4 matchs. Après un énorme passage à vide, 9 défaites en 14 matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions.
Comme City et le PSG, le Real Madrid est très mal parti.
Les Merengues sont 20e avec 9 points, mais Kylian en Liga revient former l'adversaire du soir. Le RB Salzbourg, 32e avec 3 points, est déjà presque hors course. Tout Madrid attend à présent de lui qu'il confirme ce retour au premier plan et cette prise de pouvoir sur la scène européenne après des rendez-vous manqués face à l'AC Milan et à Liverpool. Le club autrichien de Salzbourg, 34e du classement de la Champions League, nouveau format, avec 6 défaites en 6 journées, semble être la proie idéale pour affirmer un peu plus ce statut.
Carlo Ancelotti balaie les rumeurs d'un départ en fin de saison.
Sous contrat jusqu'en 2026, l'entraîneur du Real Madrid a balayé les rumeurs d'un départ en fin de saison, assurant qu'il comptait rester au club au moins 4 ans de plus. « Je vais être très clair, la date de mon départ de ce club, je ne la déciderai jamais de ma vie. » Ce jour arrivera, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi d'en décider. Cela peut arriver demain, dans quelques matchs, dans un an, dans cinq ans. Florentino Pérez, le président du club, va continuer 4 ans de plus. Et mon objectif, c'est de rester 4 ans de plus à ses côtés. Comme ça, on fera un super pot de départ ensemble, a déclaré le technicien italien, dans un large sourire, bien sûr. Une réponse claire aux rumeurs circulant dans la presse espagnole ce week-end, disant qu'il avait choisi de s'en aller à la fin de la saison et que le géant madrilène préparait déjà sa succession en visant son ex-milieu de terrain Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen.
Wilfried Tsingo permet à l'AS Monaco de se qualifier pour la phase à élimination directe de cette Ligue des Champions.
Monaco a assuré sa qualification hier soir en battant Aston Villa 1-0 grâce à un but de l'international ivoirien lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de Ligue. Cette victoire permet aux Monégasques de rejoindre leurs adversaires du soir au classement avec 13 points. Elle permet surtout de sceller la qualification, au moins pour les barrages d'accession en 8e de finale, et de se déplacer sans grande pression la semaine prochaine à Milan pour y défier l'Inter, champion d'Italie en titre, lors de l'ultime journée de la compétition.
Merci Yacouba. De nouveau avec vous, Rosine Mounezero. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Togo possède une riche tradition de solidarité, notamment à travers les tontines et d'autres formes d'entraide. Ces pratiques d'épargne communautaire, souvent promues par les femmes, soutiennent l'économie informelle et continuent d'être une source vitale de financement pour les communautés. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Jour d'emplette pour Céline. Depuis qu'elle a adhéré à une tontine alimentaire il y a 5 ans, c'est dans cette boutique qu'elle vient se ravitailler régulièrement en vivres, avec 2000 francs comme mise hebdomadaire.
Parfois, il n'y a rien à manger à la maison. Avec 2000, ce n'est pas évident d'acheter grand-chose. Alors que quand je les verse dans la tontine, j'ai la possibilité d'avoir assez de vivres. Ça m'aide beaucoup.
Calais travaille dans l'immobilier, mais elle a diversifié ses activités en s'investissant dans les cosmétiques et l'alimentaire. Elle est l'initiatrice de cette tontine alimentaire, destinée à soutenir les ménages togolais. À travers cette pratique solidaire, elle a réussi à mobiliser une communauté de près de 500 membres autour d'elle. Son projet vise également à aider les femmes dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus.
Une tontine comme ça où tu es censé donner 2 000 francs, ça te permet de regrouper. Peut-être que ta popote, c'est peut-être 30 000. Avec 30 000, tu ne peux pas faire d'activité. Mais si tu fais ça, que tu mets 10 000 de côté, le mois prochain, je pense que dans 3 mois, 4 mois, tu pourras avoir un petit capital ou commencer un petit commerce. Et avec ce commerce-là, tu as facilement accès aux 2 000 que tu continues de payer quotidiennement. D'où voilà. Donc, d'où l'idée d'aider et nos sœurs, frères et tout ça à avoir une activité.
Ce modèle d'épargne solidaire existe sous différentes formes, notamment dans les institutions financières. Certes, il a connu des évolutions avec la digitalisation, mais le principe demeure le même.
Le fonctionnement, c'est quoi ? On met un groupe avec des responsables, on s'entend sur la mise journalière, et puis, bon, dès que l'échéance arrive, soit on décide de repartir entre les membres du groupe, ou bien on décide de se cautionner mutuellement pour faire du crédit. Et chacun entreprend son activité. Donc, sur le plan social, ça donne de la cohésion, la solidarité, les gens sont ensemble régulièrement.
Cette pratique solidaire basée sur la confiance mutuelle permet aux membres d'accéder à des fonds sans passer par les circuits bancaires traditionnels, dont les conditions d'accès au crédit sont souvent restrictives.
Ceux qui participent sont généralement des gens qui sont exclus du système financier classique parce qu'ils n'ont pas de garantie matérielle à soumettre en contrepartie des crédits que le système bancaire réclame. Donc, en quelque sorte, c'est des alternatives à l'exclusion bancaire dont sont victimes ces membres de l'association. Et donc, la tontine constitue une opportunité en termes d'assurance vie, une opportunité en termes d'épargne pour pouvoir investir et une opportunité pour avoir accès au crédit.
Les tontines ont un impact significatif sur l'économie locale. Toutefois, elles posent des défis, notamment le manque d'un cadre réglementaire formel, les risques d'abus ou encore de malversation. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Congo-Brazzaville, la société civile dénonce la léthargie du gouvernement qui continue d'autoriser les exportations du bois en grume, alors que cette activité devrait favoriser l'emploi en milieu jeune. Mais les autorités rétorquent qu'aucun grume ne sort du pays sans contrôle administratif. Plusieurs scieries sont d'ailleurs installées dans les zones forestières. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Par Entame dans le nord et par Pointe-Noire dans le sud, le bois continue à être exporté malgré l'interdiction imposée par les autorités. Emar Ntambou est un ancien exploitant forestier qui reste étonné de voir le bois circuler sur la nationale numéro 1.
Ça va pour l'approvisionnement du marché local dans les scieries, mais du moins, il y a d'autres sociétés qui exportent toujours le bois. On est agrumes. Et on se pose des questions, ils ont quel genre de relations peut-être avec le gouvernement ou bien comment ils font. C'est vrai qu'il y a un problème de quota, mais quand nous voyons la quantité qui circule parfois, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser.
À l'entrée du port de Pointe-Noire, le bois arrive par voie spéciale, transporté par les grumiers et les véhicules plateaux. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, toutes ces opérations sont sous contrôle et restent légales.
La nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 011 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures qui, par ailleurs, sont attendus par nos populations.
Cet autre exploitant forestier mis au placard par la loi déplore la mesure qui, selon lui, a tué l'activité du bois dans le pays.
Ça a tué le métier, quoi. C'est fini. Ça a complètement détruit les petits métiers du bois, quoi.
Mais pourtant, nombreux se sont adaptés. Ici, à la société Adèle, située à Dolisie, une grosse scierie a été installée et apporte de la valeur ajoutée, notamment de l'emploi, aux jeunes Congolais. Albert Malunga, le directeur du personnel, ajoute même que le bois transformé ici est racheté à d'autres sociétés qui n'ont pas de scierie.
Au premier abord, on n'avait pas d'usine. On ne faisait qu'exploiter le bois en grume. Et par la suite, on avait vu que autant mieux amener les activités de transformation dans le Niari, qui est le département où on exploite la forêt. C'est finalement l'avantage pour les jeunes du Niari, parce que ça leur a donné un peu de l'emploi depuis la forêt jusqu'à l'usine ici.
Dans le village Mumbuti, l'opérateur économique Ayessa installe une nouvelle scierie. Il veut créer des dizaines d'emplois pour les jeunes. Ses partenaires chinois sont à pied d'œuvre pour installer de nouvelles machines. Appréciant l'initiative, Capable Ndembi, ancien forestier, appelle à l'accompagnement de l'État. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24 heures sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, les travaux de la phase 2 de l'autoroute devant relier Yaoundé à Douala n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Lancés depuis le 2 octobre dernier, les travaux accusent un retard à cause du processus d'indemnisation des riverains des localités d'Ongop, Mapoupi et Dibang dans la région du centre de Yaoundé, la correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le gouvernement évoque les difficultés financières et le retard dans le décret portant indemnisation des riverains de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont le point de départ est situé au village Biboudi, à 60 km de Yaoundé. Les explications du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjou-Messi.
Avec l'entreprise, nous avons donc travaillé à arrêter un tracé suffisamment réduit que nous appelons donc emprise equity qui permette à l'entreprise de commencer les travaux moyennant la libération de cette emprise utile, dont la destruction des biens qui y sont. On va donc passer utilement de 200 mètres à libérer à 100 mètres.
L'entreprise chinoise qui exécute ce projet a été freinée par les riverains lors des travaux de terrassement et de déforestation. Une situation qui a nécessité une rencontre d'explication à Yaoundé entre les parties concernées par le projet de l'autoroute. Cyprien Ngan, chef traditionnel du troisième degré du village Ham à Dibang, dans la région du centre.
Le peu qu'ils peuvent avoir là ne peut satisfaire que ceux qui sont dans les 100 mètres. Il nous a dit que aussitôt qu'on enlève ta maison ou bien ta plantation, on va t'indemniser au même moment.
Christine Gotelep, conseillère régionale, a également pris part à cette concertation.
Nous avons fait des propositions et il nous a écoutés. Et la preuve, c'est qu'il y a adhéré. Nous allons continuer à faire le travail de sensibilisation auprès des populations pour que le travail avance.
Selon la loi du 4 juillet 1985 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnisation est le préalable avant toute expropriation. Guy Lebrun, en bon mot, est juriste.
En matière d'indemnisation, la loi prévoit deux modes d'indemnisation. Par exemple, votre maison coûte 10 000, certains cas. Au lieu qu'on vous donne les 10 000, l'État dit « Ok, je ne vais pas donner 10 000 à Jules Emmanuel, je lui construis une autre maison ». Si ce n'est pas le cas, on vous donne de l'argent. Donc, c'est les deux possibilités qui sont prévues par la loi.
Au regard des difficultés que rencontre le gouvernement à payer l'intégralité des indemnisations, l'entreprise s'est engagée à anticiper sur les paiements du tracé de 10 km. À cause des blocages des travaux par les riverains, la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala sur un linéaire de 60 km a duré 8 ans et coûté 350 milliards de francs CFA au lieu de 284 milliards selon le coût initial. Emmanuel Junta Pouvé, OA Afrique, Yaoundé.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Alors que les talibans espèrent un nouveau chapitre dans les relations avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, les analystes estiment que cela dépendra de la capacité des dirigeants afghans à tenir leurs promesses. Le reportage de Roshan Nourzaï est relaté par Thierry Kaoré.
Le lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, les talibans ont exprimé l'espoir d'un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Afghanistan. Une déclaration sur les réseaux sociaux a rappelé que la première administration Trump avait signé l'accord de Doha qui avait conduit au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Dans un discours prononcé la semaine dernière, le vice-ministre des Affaires étrangères des talibans a salué le président Trump, le qualifiant de dirigeant décisif et courageux. Il a déclaré que les talibans s'attendaient à un changement de politique américaine envers l'Afghanistan sous la direction du président républicain. Sir Mohamed Abbas, vice-ministre des Affaires étrangères des talibans.
Nous espérons qu'il prendra des mesures positives. Nous ferons de même, si Dieu le veut. Nous voulons construire de bonnes relations avec la communauté internationale et les pays occidentaux.
Les responsables talibans souhaitent notamment que la nouvelle administration américaine lève les sanctions contre eux et reconnaisse leur gouvernement. Aucun pays n'a encore reconnu les talibans qui ont pris le pouvoir en 2021 après l'effondrement du gouvernement afghan et le retrait des États-Unis du pays. Les analystes affirment que les talibans espèrent s'engager dans des négociations comme celles menées pendant le premier mandat de Donald Trump et qui ont conduit à un accord avec le groupe. Anthony Wayne, ancien ambassadeur adjoint des États-Unis en Afghanistan.
Il est clair que les talibans, certains des talibans qui ont travaillé avec Trump pendant cette période, pensent qu'il existe un terrain d'entente qui sera plus proche de leurs intérêts pour parvenir à une solution. Il nous reste à voir ce que sera ce dialogue et ce qui pourra être atteint.
Mais d'autres affirment que l'on ne peut pas faire confiance aux talibans qui n'ont pas mis en œuvre leur engagement de respecter les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, de former un gouvernement inclusif et de ne pas abriter des groupes terroristes. Annie Forzheimer, du Centre d'études stratégiques internationales.
Donc, au bout du compte, j'espère que la politique sera élaborée en fonction de ce que font réellement les talibans et non en fonction de ce qu'ils disent.
Les experts estiment que l'Afghanistan n'est peut-être pas une priorité absolue pour l'administration Trump, mais ignorer ce pays pourrait avoir un coût élevé. Jonathan Shorden, du Centre d'analyse navale.
Il existe toujours un risque d'exportation de l'extrémisme et de croissance de groupes résilients comme l'État islamique. Il ne faut même pas détourner les yeux de ces groupes, sinon vous ou vos amis en payerez le prix à l'avenir.
Shorden a prévu qu'ignorer l'Afghanistan serait imprudent, mais la question est de savoir dans quelle mesure il convient de se concentrer sur ce dossier à l'avenir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
C'est
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Munezero, à la mise en onde, Georges Léonard Sagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir. Bonjour à toutes et à tous, le Monde Aujourd'hui, VOA Afrique, édition du mercredi 22 janvier 2025. En direct de Washington, Rosine Munezero. Pour commencer, les titres. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire du parti au pouvoir en annonçant les résultats définitifs des élections législatives de décembre. Au Gabon, le Parlement de transition a adopté le nouveau code électoral. Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont la nomination a été confirmée lundi par le Sénat, a déclaré mardi que mettre fin à la guerre en Ukraine serait l'une des priorités. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, promet de riposter fermement et rapidement si les États-Unis imposent des droits de douane de 25% le 1er janvier. Et dans notre partie magazine, au Congo-Brazzaville, la société civile dénonce la léthargie du gouvernement qui continue d'autoriser les exportations du bois en grumes.
C'est vrai qu'il y a un problème de quota, mais quand nous voyons la quantité qui circule parfois, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser?
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco. Pour l'instant, le journal. Au Tchad, le Conseil constitutionnel a confirmé hier la victoire du parti au pouvoir, le Mouvement patriotique du salut MPS, en annonçant les résultats définitifs des élections législatives de décembre, les premières organisées dans le pays depuis 2011. Jacques Aristide.
Nous sommes sur le point de tourner définitivement la page de la transition pour nous orienter résolument vers le développement de notre chère patrie, a réagi dans la foulée le président Mahamat Idriss Déby en se félicitant de la bonne organisation des élections. Son parti du MPS a remporté une majorité écrasante de 124 sièges sur 188, a confirmé Jean-Bernard Padaré, le président du Conseil constitutionnel. Plus d'un tiers des députés, 64 sièges, soit 34%, sont des femmes, a-t-il ajouté en saluant une progression sans appel vers la parité. Le Conseil constitutionnel a invalidé 2312 procès-verbaux électoraux pour diverses irrégularités sans conséquences significatives sur les résultats dans leur ensemble. L'examen de 243 requêtes a conduit à opérer des annulations, des rectifications et des redressements qui paraissent fondés, toujours selon Jean-Bernard Padaré. Le premier parti d'opposition du Tchad, les Transformateurs, a qualifié d'échec retentissant le processus électoral et condamné des résultats préfabriqués. Aux partis politiques qu'ils aient participé ou choisi de boycotter le scrutin, je tends une main fraternelle. La diversité de nos opinions doit donc être une force et non une faiblesse, a encore dit le maréchal et président Déby.
Une force unifiée de 5000 soldats des armées du Niger, du Burkina Faso et du Mali, trois pays sahéliens gouvernés par des militaires, va voir le jour dans les prochaines semaines pour lutter contre les djihadistes, a annoncé mardi le ministre nigérien de la Défense, le général Salifou Modi. Cette force unifiée aura non seulement son personnel, mais ses moyens aériens, ses moyens terrestres, ses moyens de renseignement et bien sûr son système de coordination, a indiqué le général Salifou Modi. Au Bénin, le procès de deux anciens alliés du président Patrice Talon, accusés de complot contre l'autorité de l'État, s'est ouvert mardi matin à Cotonou avant d'être reporté à mercredi. Olivier Boko, homme d'affaires influent et ami intime du président béninois, et Oswald Omeki, ex-ministre des Sports, ont été arrêtés fin septembre pour complot contre l'autorité de l'État, corruption d'agents publics et faux certificats. Au Gabon, le Parlement de transition a adopté le nouveau code électoral. C'est une étape clé vers le retour à un régime civil promis par les militaires au pouvoir depuis le coup d'État de 2023 qui a chassé du pouvoir Ali Bongo. Le point avec Yacouba Ouédraogo.
Entre autres dispositions, le nouveau code électoral octroie 2 sièges de députés aux représentants des Gabonais de l'étranger et permet aux binationaux de se porter candidats à toutes les élections, à l'exception de la présidentielle, sans renoncer à leur autre nationalité. Il autorise aussi, selon les médias locaux, les magistrats et militaires à se présenter sous condition aux élections. Cette disposition est critiquée par certains opposants qui craignent qu'elle ne permette à ces professions de s'ingérer dans le processus politique via les armes ou des décisions judiciaires. Ils dénoncent ce qu'ils qualifient d'une disposition taillée sur mesure pour permettre au général Brice Oligui Nguema, président de la transition, de se maintenir au pouvoir. Porté au pouvoir par les militaires qui ont renversé le président Ali Bongo en août 2023, Brice Oligui Nguema a promis de rendre le pouvoir aux civils au terme du processus de transition. Jusqu'à présent, le calendrier de la transition a été suivi, voire anticipé, avec notamment l'adoption d'une nouvelle constitution, approuvée en septembre dernier par le Parlement de transition et votée par référendum en novembre.
Dans l'est de la République démocratique du Congo, l'armée congolaise a reconnu ce mardi une percée du M23, le groupe armé qui combat le gouvernement de Kinshasa dans la région. L'ennemi a fait une percée sur Bweremana au nord Kivu et Minova au sud Kivu, les deux localités étant distantes de seulement quelques kilomètres, a déclaré le porte-parole de l'armée, le général Sylvain Ekenge, dans un communiqué des FARDC.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le nouveau secrétaire d'État américain Marco Rubio, dont la nomination a été confirmée lundi par le Sénat, dans la foulée de l'investiture de Donald Trump, a déclaré mardi que mettre fin à la guerre en Ukraine serait l'une des priorités. Les précisions de Jean-Roger Billon.
Marco Rubio, 53 ans, a été approuvé à l'unanimité par le Sénat. Il a aussitôt déclaré hier mardi à la chaîne de télévision NBC que la politique officielle des États-Unis sera que la guerre en Ukraine doit prendre fin, conformément à la promesse de Donald Trump de régler la question dès son arrivée à la Maison-Blanche. Les États-Unis cherchent à obtenir une fin durable à ce conflit qui garantit la sécurité de l'Ukraine et de nos partenaires dans la région qui stoppe les tueries, a déclaré le chef de la diplomatie américaine. S'exprimant par la suite à la Maison-Blanche après avoir prêté serment, le nouveau secrétaire d'État a promis de mener une politique étrangère qui renforcerait les intérêts nationaux des États-Unis, conformément aux souhaits du président Donald Trump. Parmi les objectifs de la Maison-Blanche figure aussi la promotion de la paix, a-t-il dit, sans jamais abandonner nos valeurs.
Les États-Unis ont rétabli un programme exigeant que les demandeurs d'asile soient renvoyés au Mexique pendant le traitement de leurs requêtes, a affirmé mardi le ministère de la Sécurité intérieure du nouveau gouvernement Trump. Ce dispositif, connu à la fois sous le nom de Resto Mexique et Protocole de protection des migrants, avait vu le jour durant le premier mandat du président Donald Trump. Il prévoit que les migrants arrivant par la frontière avec le Mexique et déposant une demande d'asile reçoivent une date de convocation et soient renvoyés vers le Mexique le temps que leur demande soit traitée. Par ailleurs, Donald Trump a affirmé mardi qu'il était favorable à l'idée d'un rachat de TikTok par Elon Musk si le patron de X, SpaceX et Tesla voulaient acheter le réseau social de l'entreprise chinoise ByteDance, interdit aux États-Unis depuis dimanche. Le président américain a signé lundi un décret ordonnant à son gouvernement de suspendre pour 75 jours l'application de la loi afin d'essayer de trouver une solution. Il a également suggéré depuis la Maison-Blanche que l'entité qui rachèterait TikTok devrait donner la moitié aux États-Unis en échange d'une licence. Le Premier ministre du Canada, Justin Trudeau, promet de riposter fermement et rapidement si les États-Unis imposent des droits de douane de 25% le 1er février, comme l'a annoncé Donald Trump lundi après son investiture. Le point avec Eric Manilakiza.
Nous sommes prêts à faire face à tous les scénarios et nous protégerons nos intérêts nationaux, a indiqué le Premier ministre Trudeau. C'est un moment crucial pour le Canada et les Canadiens, a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse. Selon des économistes, l'imposition de droits de douane déclencherait une profonde récession dans le pays, dont 75% des biens et services exportés partent vers les États-Unis. Justin Trudeau a toutefois précisé qu'il espérait toujours convaincre l'administration Trump de ne pas imposer de droits de douane. « Tout est sur la table et je soutiens le principe de droits de douane équivalent au dollar près », a-t-il déclaré, précisant que cela aura un coût pour les Canadiens. Des centaines de milliers d'emplois canadiens sont en jeu et selon un scénario pessimiste de la banque Scotia, une hausse américaine des droits de douane suivie d'une riposte du Canada sur les importations américaines pourrait faire chuter le PIB canadien de plus de 5%, augmenter considérablement le chômage et faire grimper l'inflation à plus de 4,1%. Le Premier ministre Justin Trudeau a présenté sa démission début janvier, mais le remplaçant ne sera connu que le 9 mars prochain.
Des organisations de défense des droits humains ont exprimé leur inquiétude mardi face à la possible annulation, pause ou ralentissement du processus de remise en liberté de prisonniers politiques cubains après la réinscription de Cuba sur la liste noire américaine des pays soutenant le terrorisme. Il y a une semaine, le président sortant américain Joe Biden a annoncé le retrait surprise de l'île de la liste noire américaine. Dans la foulée, la Havane a annoncé la remise en liberté graduelle de 553 personnes emprisonnées pour divers délits dans le cadre d'un accord avec le Vatican. Voilà pour le journal. Vous suivez Le Monde Aujourd'hui sur VO Afrique. À présent, la Minute Éco avec Jean-Roger Billon.
Le spécialiste français de l'uranium Orano a engagé un deuxième arbitrage à l'encontre de l'État du Niger après la perte de contrôle de sa filiale Soumaï, action qualifiée mardi par le groupe français de dernier recours possible. Orano avait fini le semestre 2024 avec une perte de 133 millions d'euros plombée par cette difficulté au Niger. Le Bureau des statistiques du Kenya commencera à publier des données sur l'inflation de base, une mesure excluant les composantes volatiles telles que l'alimentation et le carburant. Cette initiative vise à aider les autorités monétaires à mieux anticiper l'impact de leurs décisions sur les taux d'intérêt et l'économie globale et devrait simplifier l'analyse économique en vue de renforcer l'efficacité des politiques monétaires. Aux États-Unis, les adeptes du télétravail ne veulent pas revenir en arrière. La question est même devenue politique. Elon Musk, à qui Donald Trump a confié une mission consultative au gouvernement, veut éliminer tout travail à distance pour les employés fédéraux. Le télétravail reste un enjeu crucial entre aspirations des employés et stratégie des entreprises.
Place maintenant sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonjour Yacouba.
Bonjour Rosine, bonjour à tous.
Suite ce soir des matchs de poule en Ligue des Champions.
Oui, malheur ou vaincu, lors du choc PSG-Manchester City, deux cadors en danger. Ce duel au sommet se joue au Parc des Princes. Habitués au dernier carré qu'ils ont atteint trois fois chacun ces cinq dernières saisons, les Parisiens comme les Citizens sont en grande difficulté en Europe cet hiver. Le PSG 7 points est 25e, juste en dessous de la 24e place, qui octroie le dernier billet pour les barrages d'accession en huitième de finale. City, 22e avec 8 points, n'est guère mieux loti. Les joueurs de Luis Enrique, intouchable leader du championnat de France, restent sur 8 victoires de rang. Ceux de Pep Guardiola remontent en Premier League, 4e avec 3 victoires en 4 matchs. Après un énorme passage à vide, 9 défaites en 14 matchs, toutes compétitions confondues, dont 2 en Ligue des Champions.
Comme City et le PSG, le Real Madrid est très mal parti.
Les Merengues sont 20e avec 9 points, mais Kylian Mbappé, auteur d'un doublé contre Las Palmas en Liga, revient vers la grande forme et l'adversaire du soir. Le RB Salzbourg, 32e avec 3 points, est déjà presque hors course. Tout Madrid attend à présent de lui qu'il confirme ce retour au premier plan Et cette prise de pouvoir sur la scène européenne après des rendez-vous manqués face à l'AC Milan et à Liverpool, le club autrichien de Salzbourg, 34e du classement de la Champions League nouveau format, avec 6 défaites en 6 journées, semble être la proie idéale pour affirmer un peu plus ce statut.
Carlo Ancelotti balaie les rumeurs d'un départ en fin de saison.
Sous contrat jusqu'en 2026, l'entraîneur du Real Madrid a balayé les rumeurs d'un départ en fin de saison, assurant qu'il comptait rester au club au moins 4 ans de plus. « Je vais être très clair, la date de mon départ de ce club, je ne la déciderai jamais de ma vie. Ce jour arrivera, mais je ne sais pas quand. Ce n'est pas à moi d'en décider. Cela peut arriver demain, dans quelques matchs, dans un an, dans 5 ans. » Florentino Pérez, le président du club, va continuer 4 ans de plus et mon objectif, c'est de rester 4 ans de plus à ses côtés. Comme ça, on fera un super pot de départ ensemble, a déclaré le technicien italien, dans un large sourire bien sûr. Une réponse claire aux rumeurs circulant dans la presse espagnole ce week-end, disant qu'il avait choisi de s'en aller à la fin de la saison et que le géant madrilène préparait déjà sa succession en visant son ex-milieu de terrain Xabi Alonso, actuel entraîneur du Bayer Leverkusen.
Wilfried Tsingo permet à l'AS Monaco de se qualifier pour la phase à élimination directe de cette Ligue des Champions.
Monaco a assuré sa qualification hier soir en battant Aston Villa 1-0 grâce à un but de l'international ivoirien lors de la 7e et avant-dernière journée de la phase de Ligue. Cette victoire permet aux Monégasques de rejoindre leurs adversaires du soir au classement avec 13 points. Elle permet surtout de sceller la qualification, au moins pour les barrages d'accession en 8e de finale, et de se déplacer sans grande pression la semaine prochaine à Milan pour y défier l'Inter, champion d'Italie en titre, lors de l'ultime journée de la compétition.
Merci Yacouba. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Le Togo possède une riche tradition de solidarité, notamment à travers les tontines et d'autres formes d'entraide. Ces pratiques d'épargne communautaire, souvent promues par les femmes, soutiennent l'économie informelle et continuent d'être une source vitale de financement pour les communautés. Reportage de notre correspondante Amène Assignon à Lomé.
Jour d'emplette pour Céline. Depuis qu'elle a adhéré à une tontine alimentaire il y a 5 ans, c'est dans cette boutique qu'elle vient se ravitailler régulièrement en vivres, avec 2000 francs comme mise hebdomadaire.
Parfois, il n'y a rien à manger à la maison. Avec 2000, ce n'est pas évident d'acheter grand-chose. Alors que quand je les verse dans la tontine, j'ai la possibilité d'avoir assez de vivres. Ça m'aide beaucoup.
Calais travaille dans l'immobilier, mais elle a diversifié ses activités en s'investissant dans les cosmétiques et l'alimentaire. Elle est l'initiatrice de cette tontine alimentaire, destinée à soutenir les ménages togolais. À travers cette pratique solidaire, elle a réussi à mobiliser une communauté de près de 500 membres autour d'elle. Son projet vise également à aider les femmes dans la mise en place d'une activité génératrice de revenus.
Une tontine comme ça où tu es censée donner 2000 francs, ça te permet de regrouper. Peut-être que ta popote, c'est peut-être 30 000. Avec 30 000, tu ne peux pas faire d'activité. Mais si tu fais ça, que tu mets 10 000 de côté, le mois prochain, je pense que dans 3 mois, 4 mois, tu pourras avoir un petit capital ou commencer un petit commerce. Et avec ce commerce-là, tu as facilement accès aux 2 000 que tu continues de payer quotidiennement. D'où voilà. Donc, d'où l'idée d'aider et nos sœurs, frères et tout ça à avoir une activité.
Ce modèle d'épargne solidaire existe sous différentes formes, notamment dans les institutions financières. Certes, il a connu des évolutions avec la digitalisation, mais le principe demeure le même.
Le fonctionnement, c'est quoi ? On met un groupe avec des responsables, on s'entend sur la mise journalière, et puis, bon, dès que l'échéance arrive, soit on décide de repartir entre les membres du groupe, ou bien on décide de se cautionner mutuellement pour faire du crédit. Et chacun entreprend son activité. Donc, sur le plan social, ça donne de la cohésion, la solidarité, les gens sont ensemble régulièrement.
Cette pratique solidaire basée sur la confiance mutuelle permet aux membres d'accéder à des fonds sans passer par les circuits bancaires traditionnels, dont les conditions d'accès au crédit sont souvent restrictives.
Ceux qui participent sont généralement des gens qui sont exclus du système financier classique parce qu'ils n'ont pas de garantie matérielle. à soumettre en contrepartie des crédits que le système bancaire réclame. Donc, en quelque sorte, c'est des alternatives à l'exclusion bancaire dont sont victimes ces membres de l'association. Et donc, la tontine constitue une opportunité en termes d'assurance vie, une opportunité en termes d'épargne pour pouvoir investir et une opportunité pour avoir accès au crédit.
Les tontines ont un impact significatif sur l'économie locale. Toutefois, elles posent des défis, notamment le manque d'un cadre réglementaire formel, les risques d'abus ou encore de malversation. Amène Assignon pour VOA Afrique, Lomé.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui. Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Au Congo-Brazzaville, la société civile dénonce la léthargie du gouvernement qui continue d'autoriser les exportations du bois en grume, alors que cette activité devrait favoriser l'emploi en milieu jeune. Mais les autorités rétorquent qu'aucun grume ne sort du pays sans contrôle administratif. Plusieurs scieries sont d'ailleurs installées dans les zones forestières. Le reportage de notre correspondant à Brazzaville, Arsène Séverin.
Par Ntam dans le nord et par Pointe-Noire dans le sud, le bois continue à être exporté malgré l'interdiction imposée par les autorités. Emar Ntambou est un ancien exploitant forestier qui reste étonné de voir le bois circuler sur la nationale numéro 1.
Ça va pour l'approvisionnement du marché local dans les scieries, mais du moins, il y a d'autres sociétés qui exportent toujours le bois. On est agrumes. Et on se pose des questions, ils ont quel genre de relations peut-être avec le gouvernement ou bien comment ils font. C'est vrai qu'il y a un problème de quota, mais quand nous voyons la quantité qui circule parfois, on se pose des questions, est-ce qu'il y a un système que peut-être qu'on n'arrive pas à maîtriser?
À l'entrée du port de Pointe-Noire, le bois arrive par voie spéciale, transporté par les grumiers et les véhicules plateaux. Pour le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Thierry Mungala, toutes ces opérations sont sous contrôle et restent légales.
La nécessité d'avoir maintenu des autorisations spéciales, donc tout est encadré, d'exportation pour un volume global de grumes de 2 011 783 mètres cubes. Et il s'agissait d'aider par ces exportations à la mise en œuvre et au financement d'un certain nombre de projets d'infrastructures qui, par ailleurs, sont attendus par nos populations.
Cet autre exploitant forestier mis au placard par la loi déplore la mesure qui, selon lui, a tué l'activité du bois dans le pays.
Ça a tué le métier, quoi. C'est fini. Ça a complètement détruit les petits métiers du bois, quoi.
Mais pourtant, nombreux se sont adaptés. Ici, à la société Adèle, située à Dolisie, une grosse scierie a été installée et apporte de la valeur ajoutée, notamment de l'emploi, aux jeunes Congolais. Albert Malunga, le directeur du personnel, ajoute même que le bois transformé ici est racheté à d'autres sociétés qui n'ont pas de scierie.
Au premier abord, on n'avait pas d'usine, on ne faisait qu'exploiter le bois en grume. Et par la suite, on avait vu que autant mieux amener les activités de transformation dans le Niari, qui est le département où on exploite la forêt. C'est justement l'avantage pour les jeunes du Niari, pour que ça leur a donné un peu de l'emploi depuis la forêt jusqu'à l'usine ici.
Dans le village Mumbuti, l'opérateur économique Ayessa installe une nouvelle scierie. Il veut créer des dizaines d'emplois pour les jeunes. Ses partenaires chinois sont à pied d'œuvre pour installer de nouvelles machines. Appréciant l'initiative, Capable Ndembi, ancien forestier, appelle à l'accompagnement de l'État. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Restez à l'écoute de VOA Afrique 24h sur 24 sur 104.3 FM à Brazzaville et 98.3 FM à Pointe-Noire.
Au Cameroun, les travaux de la phase 2 de l'autoroute devant relier Yaoundé à Douala n'ont pas encore atteint leur vitesse de croisière. Lancés depuis le 2 octobre dernier, les travaux accusent un retard à cause du processus d'indemnisation des riverains des localités d'Ongop, Mapupi et Dibang dans la région du centre de Yaoundé. La correspondance d'Emmanuel Juntap.
Le gouvernement évoque les difficultés financières et le retard dans le décret portant indemnisation des riverains de la phase 2 de l'autoroute Yaoundé-Douala, dont le point de départ est situé au village Biboudi, à 60 km de Yaoundé. Les explications du ministre des Travaux publics, Emmanuel Nganoundjou-Messi.
Avec l'entreprise, nous avons donc travaillé à arrêter
un tracé suffisamment réduit que nous appelons donc emprise et pitié, qui permettent à l'entreprise de commencer les travaux moyennant la libération de cette emprise utile, donc la destruction des biens qui y sont. On va donc passer utilement de 200 mètres à libérer à 100 mètres.
L'entreprise chinoise qui exécute ce projet a été freinée par les riverains lors des travaux de terrassement et de déforestation. Une situation qui a nécessité une rencontre d'explication à Yaoundé entre les parties concernées par le projet de l'autoroute. Cyprien Ngan, chef traditionnel du troisième degré du village Ham à Diban, dans la région du centre.
Le peu qu'ils peuvent avoir là ne peut satisfaire que ceux qui sont dans les 100 mètres. Il a dit que aussitôt qu'on enlève ta maison ou bien ta plantation, on va t'indemniser au même moment.
Christine Gotelep, conseillère régionale, a également pris part à cette concertation.
Nous avons fait des propositions et il nous a écoutés. Et la preuve, c'est qu'il y a adhéré. Nous allons continuer à faire le travail de sensibilisation auprès des populations pour que le travail avance.
Selon la loi du 4 juillet 1985 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, l'indemnisation est le préalable avant toute expropriation. Guy Lebrun, en bon mot, est juriste.
En matière d'indemnisation, la loi prévoit deux modes d'indemnisation. Par exemple, votre maison coûte 10 000, certains cas. Au lieu qu'on vous donne les 10 000, l'État dit, ok, je ne vais pas donner 10 000 à Jules Emmanuel, je lui construis une autre maison. Si ce n'est pas le cas, on vous donne de l'argent. Donc, c'est les deux possibilités qui sont prévues par la loi.
Au regard des difficultés que rencontre le gouvernement à payer l'intégralité des indemnisations, l'entreprise s'est engagée à anticiper sur les paiements du tracé de 10 km. À cause des blocages des travaux par les riverains, la première phase de l'autoroute Yaoundé-Douala sur un linéaire de 60 km a duré 8 ans et coûté 350 milliards de francs CFA au lieu de 284 milliards selon le coût initial. Emmanuel Junta pour VOA Afrique, Yaoundé.
La voix de l'Amérique, Bongui 101.7 FM.
Alors que les talibans espèrent un nouveau chapitre dans les relations avec les États-Unis sous la présidence de Donald Trump, les analystes estiment que cela dépendra de la capacité des dirigeants afghans à tenir leurs promesses. Le reportage de Roshan Nourzaï est relaté par Thierry Kaoré.
Le lendemain de la victoire de Donald Trump à l'élection présidentielle de 2024, les talibans ont exprimé l'espoir d'un nouveau chapitre dans les relations entre les États-Unis et l'Afghanistan. Une déclaration sur les réseaux sociaux a rappelé que la première administration Trump avait signé l'accord de Doha qui avait conduit au retrait des troupes américaines d'Afghanistan. Dans un discours prononcé la semaine dernière, le vice-ministre des Affaires étrangères des talibans a salué le président Trump, le qualifiant de dirigeant décisif et courageux. Il a déclaré que les talibans s'attendaient à un changement de politique américaine envers l'Afghanistan sous la direction du président républicain. Sir Mohamed Abbas, vice-ministre des Affaires étrangères des talibans.
Nous espérons qu'il prendra des mesures positives. Nous ferons de même, si Dieu le veut. Nous voulons construire de bonnes relations avec la communauté internationale et les pays occidentaux.
Les responsables talibans souhaitent notamment que la nouvelle administration américaine lève les sanctions contre eux et reconnaisse leur gouvernement. Aucun pays n'a encore reconnu les talibans qui ont pris le pouvoir en 2021 après l'effondrement du gouvernement afghan et le retrait des États-Unis du pays. Les analystes affirment que les talibans espèrent s'engager dans des négociations comme celles menées pendant le premier mandat de Donald Trump et qui ont conduit à un accord avec le groupe. Anthony Wayne, ancien ambassadeur adjoint des États-Unis en Afghanistan.
Il est clair que les talibans, certains des talibans qui ont travaillé avec Trump pendant cette période, pensent qu'il existe un terrain d'entente qui sera plus proche de leurs intérêts pour parvenir à une solution. Il nous reste à voir ce que sera ce dialogue et ce qui pourra être atteint.
Mais d'autres affirment que l'on ne peut pas faire confiance aux talibans qui n'ont pas mis en œuvre leur engagement de respecter les droits de l'homme, en particulier ceux des femmes, de former un gouvernement inclusif et de ne pas abriter des groupes terroristes. Annie Forzheimer, du Centre d'études stratégiques internationales.
Donc, au bout du compte, j'espère que la politique sera élaborée en fonction de ce que font réellement les talibans et non en fonction de ce qu'ils disent.
Les experts estiment que l'Afghanistan n'est peut-être pas une priorité absolue pour l'administration Trump, mais ignorer ce pays pourrait avoir un coût élevé. Jonathan Shorden, du Centre d'analyse navale.
Il existe toujours un risque d'exportation de l'extrémisme et de croissance de groupes résilients comme l'État islamique. Il ne faut même pas détourner les yeux de ces groupes, sinon vous ou vos amis en payerez le prix à l'avenir.
Shorden a prévu qu'ignorer l'Afghanistan serait imprudent, mais la question est de savoir dans quelle mesure il convient de se concentrer sur ce dossier à l'avenir.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler, participer en live, en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h à 21h temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h temps universel sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
Voilà, c'est tout pour cette édition du Monde Aujourd'hui, VOA Afrique. Merci de l'avoir suivi. Au micro, vous étiez avec Rosine Mounezero, à la mise en onde, Georges Léon Arsagno. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24h sur 24. Passez une excellente journée à l'écoute de VOA Afrique. Au revoir.